Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org
et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble. Bonjour et bienvenue sur l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. On est ensemble jusqu'à 14h et pour cette avant-dernière émission de l'été, nous allons donc parler de l'université et plus précisément de l'université avant, pendant et après le confinement, des luttes qui étaient déjà en cours avant le confinement et surtout de qu'est-ce que ça a été l'université à distance et qu'est-ce que ça serait si l'université devait rester pour toujours à distance. Pour ça, on a donc interviewé deux personnes, deux enseignantes chercheuses qui sont donc Jo et Gaëlle, et on va pouvoir dans un premier temps écouter leurs témoignages et leurs conversations autour de ce sujet. Et après ça, on va entendre les témoignages des jeunes majeurs isolés qui sont donc actuellement en lutte et qui occupent le parvis du rectorat pour pouvoir réclamer leurs droits, c'est-à-dire un toit et un accès à l'école. Et pour commencer, on écoute donc le témoignage de Jo et de Gaëlle sur l'université en temps de confinement. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 et sur Micro-ondes.
Moi, je me présente, je suis Jo, je suis enseignante chercheuse précaire. Ça veut dire que j'enseigne avec une charge de cours assez importante quand même depuis 2015. En étant mal payée et je fais de la recherche bénévolement en étant rattachée à un laboratoire de recherche, mais je ne suis pas payée pour ça.
Bonjour, donc je m'appelle Gaëlle, moi je suis plus chercheure qu'enseignante en ce moment, précaire aussi puisque j'enchaîne des contrats de recherche courts, donc des genres de CDD qui s'appellent des post-doctorats qui vont de entre 6 mois si j'ai pas de chance et 1 an et demi si j'ai de la chance, voilà, depuis à peu près 2 ans et demi. Et je donne des cours de façon moins importante, mais sous le système des vacations, qui est un système très essentiel à l'université, mais très précarisant aussi pour les personnes qui travaillent dans ce système-là, mais on pourrait y revenir.
Oui, du coup, je trouve, pour préciser, que la précarité, ça se joue à plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'économiquement, on n'a pas beaucoup d'argent, mais aussi qu'on peut, en général, pas trop se projeter au maximum à l'échelle d'un semestre ou une année.
Et la précarité, elle est aussi institutionnelle, puisque moi, par exemple, depuis que j'ai fini ma thèse et que je suis docteur, je change d'appartenance institutionnelle tous les 6 mois, 1 an. Donc, je change de laboratoire, je change d'employeur et je change aussi de collectif de travail, ce qui amène à, voilà, en termes de recherche, d'intégration dans une université, à avoir une forme d'évitement et de ne pas pouvoir s'insérer vraiment localement, ce qui est dommage.
Mais du coup, avant le confinement, on était quand même dans un contexte bien particulier dans les universités depuis, disons, au moins 1 an. Enfin, il y aurait plusieurs vagues dont on pourrait parler, mais ça serait trop long. Tout a commencé, je dirais, dans la dernière vague avec la lutte contre Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme Internet qui a été créée pour redispatcher les étudiants sur les universités. Ça va avec une réforme générale qui veut que les universités deviennent des pôles d'excellence, c'est-à-dire qu'elles soient mises en compétition les unes avec les autres, alors que jusqu'à maintenant, les universités étaient plutôt une sorte de service public national qui était redistribué localement. L'idée, c'est plutôt maintenant qu'à l'échelle du pays, voire au-delà des frontières, on choisisse des universités parce qu'elles sont pôles d'excellence.
Si, c'est ça. En fait, il y a un système qu'on constate dans d'autres services publics. On fusionne et on rassemble les universités qui étaient, avant, elles étaient voilà, différenciées. Je ne sais pas, à Grenoble, par exemple, il y avait trois universités différentes. Et depuis quelques années, même un an ou deux, on les rassemble dans une énorme université qu'on fusionne et qui permettrait, c'est ce qui est dit par les présidents d'université ou ministère, d'attirer de plus en plus d'argent, d'investisseurs, de financement et d'étudiants, qu'ils soient locaux, étrangers, internationaux, etc. On est dans ces mécanismes-là qu'on connaît bien.
Ça serait trop long de rentrer dans tous les détails, mais juste quand même comme précision qui me semble importante, c'est que à la fois, il y a cette création de pôle d'excellence, mais il y a une exigence que toutes les formations qui étaient détachées soient rattachées à ça aussi, c'est-à-dire les écoles d'infirmières, donc tout le domaine du médical, du paramédical doit être aussi rattaché à des universités à partir de la rentrée 2020. Et c'est vrai aussi de toute la formation du social. Donc il y a moins d'argent qui est donné du côté public, mais il y a quand même une volonté de rassembler les choses pour qu'après, les pôles d'excellence s'autofinancent avec le monde professionnel, le monde privé, les investisseurs. Bon, on ne voit pas très bien comment ça va se passer tout ça, mais il y a ce rattachement-là aussi du secteur médico-social aux universités.
Ça, c'est le contexte un peu général donc des universités. Et par là, ce greffe en fait, des mobilisations dans la cour de la dernière année, donc contre Parcoursup, qui a été une grande mobilisation des étudiants depuis un ou deux ans, qui continue aujourd'hui. Donc, il y a eu la mobilisation autour des retraites, puisque ça touche également forcément tous les travailleurs de l'université, qui ne sont pas que enseignants ou chercheurs, mais qui sont aussi des personnels administratifs, techniques, etc. Et aussi une mobilisation qui a commencé alors en décembre et surtout qui s'est accentuée à partir de janvier jusqu'au confinement, qui est une lutte contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui est en fait la loi générale qui donne un peu les directives pour les 10 années de ce que va être l'enseignement et surtout la recherche en France. Et donc, il y avait un pré-projet de loi qui avait été communiqué par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et qui avait entraîné une mobilisation des facs et des labos, puisqu'en fait, le problème global de cette loi, c'est qu'on va vers de plus en plus de précarisation et surtout de compétition entre chercheurs, enseignants-chercheurs, de moins en moins de postes fixes, de plus en plus de CDD, de plus en plus de carrières où on combine du privé, du public, etc. Voilà. Donc il y a une mobilisation qui s'est tenue, qui a été assez forte, avec des grèves, des mobilisations originales aussi, notamment les grèves des revues scientifiques. Ils ont arrêté de publier, voilà, les revues. Ce qui est intéressant, puisque nous, en tant que précaires, je ne sais pas ce que t'en penses, mais on est assez individualisés dans ce système-là. On a, comme on change souvent, on n'a pas de statut, c'est difficile de se rattacher à des groupes. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on déplaçait la mobilisation classique sociale au niveau des collectifs, donc notamment des revues, ce qui permettait d'avoir une autre forme de mobilisation. Il y a eu des formes aussi sur, par exemple, les démissions des comités de sélection, des instances administratives, etc. Et donc, on était vraiment en pleine lutte dans les universités, les labos, juste à la période du confinement. Et c'est une mobilisation qui est en train de reprendre, ou en tout cas, on se pose forcément la question de ce que ça peut donner là, dans les prochaines semaines.
Oui, parce que du coup, je ne sais pas pour les gens qui ne connaissent pas l'université si c'est un peu clair cette histoire, mais dans l'université, il y a vraiment les deux pans, enseignement et recherche. Et les enjeux, ils ne sont pas les mêmes dans ces deux choses, même si c'est toujours lié, et que la plupart des statuts combinent les deux. Enfin, une des choses qui est défaite, c'est aussi de combiner les deux à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec des statuts seulement recherche et d'autres seulement enseignants. Mais du côté enseignement, moi, je trouve qu'un des enjeux, c'est garantir quand même encore un accès aux universités. Bon, l'année dernière, il y a aussi eu un mouvement de protestation sur les augmentations des frais universitaires pour les étudiants hors Union européenne, qui ont quand même augmenté de par 7, multiplié par 7. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, les gens se sont retrouvés à payer, autour de 5 000 ou 7 000
milliers d'euros pour accéder.
5 000 ou 7 000 euros. Ouais. Alors que les frais d'inscription sont autour de, je ne sais pas exactement, mais 300 euros, je dirais.
Oui, c'est ça.
Et
Ce qui fait qu'en fait, la logique derrière, c'est d'attirer de plus en plus les étudiants riches, voilà, en France. Et c'est plus que ça qui intéresse, quoi, finalement, l'université.
En France, en fait, il y a déjà un système vraiment à double vitesse. Ça veut dire que quand on parle d'une université dans une petite ville comme Saint-Étienne, quand on parle d'une université en Seine-Saint-Denis comme Paris 8, ou
d'une... Paris-Saclay, les nouvelles formes d'université, la cluster, école d'ingénieurs, université ça. Encore différentes. En classe.
En fait, il y a vraiment des disparités de financement qui sont énormes. Et avec. En fait, la formation de l'élite française, elle n'est pas du tout touchée par tout ça. En fait, c'est comme si on était en train de revenir à un état des années 1950, en fait, en termes d'accès au savoir. C'est-à-dire que, et ça fait déjà 10 ans que l'OCDE a recommandé qu'il fallait arrêter d'éduquer massivement les populations dans les pays développés. C'est plus nécessaire parce qu'il y a les nouvelles technologies qui pallient au manque de savoir. L'élite a des bonnes écoles, a des profs corrects, a des conditions. Enfin, ça touche pas tout l'enseignement supérieur. En fait, ça touche l'enseignement supérieur qui est un produit de la massification de l'éducation à partir des années 1980. Du coup, côté enseignement, c'est ça. Ce serait garantir quand même un accès aussi local. Moi, il me semble que c'est important. C'est quand même de plus en plus étrange de voir apparaître des étudiants qui viennent de l'autre bout de la France et puis les étudiants d'ici qui vont à l'autre bout de la France. Enfin, ça, c'est les effets de Parcoursup. Et du côté de la recherche... pour les sciences humaines et sociales, c'est vraiment une question d'avoir encore une marge de manœuvre pour développer une pensée critique et politique. Et ça, en fait, ça prend du temps et ça ne peut pas répondre à des appels à projets. Et du coup, il y a des disciplines qui sont vraiment presque amenées à disparaître parce que c'est impossible, par exemple, que l'histoire devienne productive. L'histoire ne peut pas être rentable. Il n'y a rien de rentable dans l'histoire. Il y a eu des mouvements dans les dernières années, par exemple, pour se mobiliser pour la sauvegarde d'archives, parce que c'est dans une logique de rentabilisation des archives, ça ne sert à rien. Voire même toute la production d'histoire ne sert à rien. Et du coup, c'est dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, parce que nous, on n'a pas dit dans quelle discipline on était, mais on est en sociologie, et du coup, du côté des sciences humaines et sociales, là, il y a vraiment des disparitions de pans entiers de la recherche qui sont pas directement utilisables par une société qui veut que marchandiser et être rentable.
C'est ça. Et peut-être un des derniers éléments qui a concerné quand même les étudiants au cours de cette année, ça a été, alors on le sait depuis longtemps, mais ça a été mis un peu en visibilité, c'est la précarisation en fait des étudiants aujourd'hui dans nos universités. En fait, ils sont de plus en plus sans ressources, isolés, avec une aggravation là pendant la crise sanitaire et le confinement, où il y a eu des étudiants dans des situations sociales, économiques très graves, en fait, avec la perte de leurs revenus, souvent soit des jobs étudiants, mais aussi la gratification des stages qui sont arrêtés. Donc plus de ressources et de revenus, et alors qu'on leur demandait encore d'être étudiants et de continuer à suivre des enseignements tant bien que mal, à passer des examens, etc.
Et à ce niveau-là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment problématique, qui est une sorte d'alliance avec la précarisation du monde du travail. Ça veut dire qu'ils ont créé une chose qui s'appelle des contrats étudiants, dans lesquels, les gens doivent travailler à peu près 18 heures par semaine, je crois, assez mal payés, en dessous du SMIC. En fait, c'est comme le CPE, mais pire.
Pour travailler à l'université.
Et je veux dire, en dehors, ils travaillent à Carrefour, n'importe où, au supermarché, etc.
Ah oui, ça, ils sont reconnus après.
Ils ont des bonifications. Les étudiants, pendant ce semestre, avec le confinement, se retrouvent avec des bonifications. Mais c'est des bonifications, plus importantes si le service rendu à la nation est plus important. Et c'est vraiment dit comme ça. Ça veut dire, si tu as travaillé dans un hôpital, tu vas être bonifié de 0,3. Si tu as travaillé à Picard, carte surgelée, tu vas être bonifié de 0,2. Et encore, ça dépend de la mission que tu as eue à Picard surgelé à l'hôpital. Et du coup, y a vraiment une incitation aussi à faire que les étudiants travaillent dans des conditions qui sont complètement au service
du monde économique.
Du monde économique. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas comment conclure cette affaire, mais je trouve qu'il y a une précarisation toujours plus grande des étudiants.
Voilà, qui va de pair avec celui des enseignants et des chercheurs finalement. En tout cas, pour revenir peut-être au sujet où, je ne sais pas, cette période un peu particulière, très particulière qu'on vient de vivre là, du confinement, de la crise sanitaire, qui fait que c'était des tendances de fond et qui existent à l'université depuis des années, mais ce qu'on craint forcément et ce qui commence à apparaître quand même, c'est qu'avec cette crise sanitaire et les mesures qui ont été mises en place, il y a des pratiques qui se tendent à se généraliser puis à devenir la norme. Notamment, peut-être pour rebondir sur la suite, le fait d'avoir des cours en distanciel, de plus pouvoir avoir une liberté, autonomie des universités, enfin des profs et des chercheurs sur ce qu'ils font, c'est quoi leur travail, etc. Mm-hmm. Je ne sais pas si Jo, tu veux en dire un mot. Comment ça s'est passé peut-être cette période?
En fait, c'est pas un mouvement qui est nouveau parce que, par exemple, à l'université, on est tenu d'avoir un ENT, ils appellent ça un espace
numérique de travail.
Numérique de travail, comme une sorte de bureau partagé. Et cette chose, elle a pris de plus en plus de place dans les 5 dernières années. Et donc, au départ, on était comme un peu libre de l'utiliser ou pas. Bon, c'est comme une sorte de plateforme sur laquelle on peut faire un millier de choses. Moi, dans l'université dans laquelle je travaille, cette plateforme, elle a été développée par une compagnie privée. Enfin, là, il y a aussi des questions de qui finance quoi, etc. Une compagnie privée, elle a été développée pour une entreprise avec donc tout le vocabulaire de l'entreprise, l'idée de collaborateur, blablabla. Enfin, donc, un truc qui n'est pas du tout adapté, en fait, à ce qu'on fait pour de vrai. Et donc, cet outil qui au départ était une chose un peu annexe prend toujours plus de place, et au sein de l'université sont recrutés des ingénieurs qui permettent de développer ces technologies et qui en fait nous incitent en permanence à les développer, c'est-à-dire nous proposent des formations flash éclair, inscris-toi et dans 24 heures tu pourras apprendre à faire une classe virtuelle. Et j'exagère pas du tout, vraiment non. C'est comme ça, souvent c'est même annoncé en anglais pour que ce soit un peu plus fun, je sais pas quoi. Et du coup, ces outils qui étaient comme un peu marginaux, pour lesquels j'ai l'impression que la plupart des enseignants-chercheurs titulaires ou vacataires ont quand même un peu de méfiance, un peu de recul, etc. Du coup, c'est devenu notre outil de base sur lequel on devait absolument s'appuyer. Et le tout sans formation, sans heures supplémentaires payées, sans
matériel adéquat.
Matériel, bien sûr, on travaille avec notre propre matériel. Et du coup, avec la disparité du matériel qui va certainement avec les salaires de base et donc avec les statuts. Et ces outils, en fait, je sais pas, c'est difficile. En tout cas, pour moi, c'est difficile d'avoir vraiment un grand recul là-dessus. J'imagine, comme tout, qu'il y a du bon et du mauvais là-dedans. Je pense pas que ça produise que des mauvaises choses, je veux pas dire ça, mais ça individualise, ça c'est sûr. On se retrouve avec des suivis individualisés. Moi, ce semestre, j'ai suivi 260 étudiants plus 30, parce qu'il y en a que j'avais dans un autre groupe, et je les ai suivis individuellement, quoi. Du coup, ça rajoute une masse de travail pas possible, ça n'a rien à voir avec la réalité de faire cours en direct.
Tout à fait.
Et pour les étudiants, cette individualisation, elle est aussi quand même assez... je vois pas trop où elle les mène. Enfin, je veux dire, ils sont vraiment seuls devant leur ordi. Moi encore, je combine avec plusieurs étudiants. Donc,
ça dépend des universités, hein, mais ça a clairement été montré que là, il y a eu dans plusieurs universités, d'ailleurs autant des petites que des grosses ou des départements plus importants que d'autres, qu'il y a eu des décrochages, notamment des étudiants qui sont de toute façon les plus vulnérables et les moins dotés socialement. Et c'est eux qui ont le plus décroché, mais comme sûrement ce qu'on a pu voir dans l'enseignement primaire ou secondaire, quoi. C'est ça.
et donc ce qu'on s'inquiète forcément, c'est d'avoir ce qui a été annoncé par la ministre de l'Enseignement et de la Recherche là il y a quelques jours, c'est que la majorité des cours n'auraient pas lieu en présentiel à la rentrée, ou en tout cas qu'ils nous disent qu'il faut prévoir des enseignements en distanciel pour anticiper une dégradation possible des conditions sanitaires. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que, par exemple, dans certaines universités parisiennes, a été annoncé qu'il n'y aurait aucun cours magistraux, donc c'est-à-dire les cours en amphi qui n'existeraient pas à la rentrée. Et moi, par exemple, pour des vacations que je donne quasiment à chaque année là, dans une fac, on m'a demandé de faire un TD, donc notamment ce qui se fait en plus petits groupes, mais de prévoir un support de cours différent pour pouvoir l'adapter au fait qu'il y aurait peut-être qu'une dizaine d'étudiants dans la salle. Donc moi, ça me demande de retravailler sur des cours pour lequel je suis payée en fait moins que le SMIC. Hein. Quand on fait des vacations, c'est ce qui a été montré par les syndicats et les collectifs de chercheurs l'année dernière, c'est qu'on est payé moins que le SMIC pour donner des heures de cours à l'université. Donc voilà, ça va être aussi une charge de travail importante pour nous, aussi un accompagnement des étudiants qui nous inquiètent, hein, de savoir comment les accompagner dans ces périodes-là où ils sont autant que nous dans l'incertitude de ce qui va se passer.
Je pense qu'une des choses qui s'est vraiment défaite dans l'université et qui va être encore plus défaite par moi, je sais pas dans mon université comment on va reprendre encore. On a que pour l'instant des rumeurs qu'il faudrait qu'on fasse à distance, etc. Mais on n'a pas eu d'informations carrées. On doit en parler dans les deux prochaines semaines. Mais pour moi, faire des études, la vie universitaire, etc., c'est aussi comme un temps spécial de la vie où tu peux te rencontrer avec d'autres et apprendre, en fait. C'est comme, je sais pas, t'es comme jeune et tu peux comme t'ouvrir à plein de nouvelles choses. C'est pas juste aller en cours, en fait. Aller en cours dans la socialisation étudiante, c'est une toute petite partie de l'affaire. Et déjà, c'était montré depuis bien avant, depuis, je sais pas, 74 et les travaux de Bourdieu, etc., et Passeron, c'était montré qu'il y avait des socialités étudiantes qui étaient très diverses selon les classes sociales des étudiants. Ça veut dire que les plus précaires, eh ben, ils avaient une vie moins étudiante. Ça veut dire qu'ils sortaient pas, ils passaient moins de temps à traîner avec les autres, à boire des verres, à philosopher, à refaire le monde, etc. Donc il y avait déjà une disparité de classe sociale. Mais en fait, cette numérisation un peu forcée par l'épidémie et forcée par le cours de la rentabilité, qu'il faut que ça coûte moins cher, etc., et ben, elle casse complètement cette sociabilité étudiante qui, à mon avis, est une grande partie de la formation des savoirs en France. Et du coup, après, quand la question de comment on forme le savoir au-delà des frontières nationales, on nous oblige à réfléchir dans ce cadre national, mais en fait, c'est au-delà de ça. Comment on forme dans une société le savoir, bah, ça se forme par les rencontres, ça se forme par les discussions, ça se forme par les mouvements collectifs. Et en fait, si on détruit tout ça et qu'on fait qu'il n'y a plus de possibilité de sociabilité, mais qu'on reçoit juste des PDF, qu'on a des visios, que machin, je pense que la question de s'inquiéter des fake news, elle n'est pas finie, quoi, parce qu'en en fait, on n'a plus de rapport par rapport au savoir, on ne sait plus parler, on ne sait plus discuter, on ne sait plus échanger. Et ça, moi, je pense que c'est un enjeu vachement important de toute la numérisation et de tout, au-delà des courants distanciels, ce truc de Parcoursup. Enfin, cette année, j'ai récupéré des étudiantes qui étaient en train de pleurer, de me demander mais comment on fait pour s'inscrire sur la plateforme en master. En fait, cette numérisation, c'est l'enfer. Et les discours qui disent oui, mais les jeunes, ils sont bien avec les nouvelles technologies, ils adorent et tout, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, moi, jusqu'à maintenant, dans les cours, quand je demande si les gens ils veulent un PDF en ligne ou s'ils veulent une photocopie old school, ils veulent tout le temps une photocopie old school, en fait. Et du coup, pour moi, l'enjeu, il est vraiment là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans une société avec le savoir? Ça veut dire comment on donne aux nouvelles générations la possibilité de se construire une pensée critique, de savoir. Ça veut dire quoi réfléchir, en fait? Normalement, ça sert à ça, une université, quoi.
Et on a vu à quel point c'était essentiel d'avoir un regard critique sur qu'est-ce que le savoir, à quoi ça sert, c'est quoi sa place dans la société, qui le construit, comment il est construit. On a vu que c'était des questions essentielles pendant toute la crise sanitaire et qui continue aujourd'hui, en fait, puisque les liens entre science et politique, entre science et société, ils sont essentiels dans la construction de nos mondes aujourd'hui, de la façon de réagir à des crises, à faire attention à l'autre, etc. Voilà. On l'a bien vu avec tous les débats autour de c'est quoi un médicament, comment on fait un vaccin, qui a la légitimité de prendre des décisions sur quelle molécule utiliser ou pas, sur quoi on s'appuie, pourquoi il y a un conseil scientifique qui rend des décisions, enfin des avis au niveau de l'État, et comment ces avis sont pris en compte ou non par les politiques. Voilà, ça, c'est toutes des questions qu'on voit à l'université, hein, et pas que en sciences sociales. Hein, c'est ce que les étudiants sont formés à ces questions-là dans toute discipline, en fait. Et c'est essentiel après pour pouvoir agir ou en tout cas comprendre le monde dans lequel on est.
Sur cette question des amphis, c'est un peu ce que je disais avant. Ça veut dire qu'on peut, on a pu critiquer, et c'est fait depuis, je pense, 30 ou 40 ans, qu'est-ce que c'est qu'un amphi. Mais là aussi, ça branche sur plein d'autres choses, parce que, en fait, en 74, quand c'est critiqué ce que c'est qu'un amphi, les enseignants-chercheurs qui enseignent en amphi sont pas les mêmes profils que maintenant, en 2020. Mmh. Ça veut dire que, finalement, je sais pas si c'est parlant de le dire comme ça, mais en fait, moi j'en fais partie, mais ça veut dire des minorités qui, en 74, n'auraient jamais pu accéder à donner un cours en amphi. Les facs, elles se sont à ce niveau-là, ça a suivi la démocratisation des 80% bac. Ça veut dire que on retrouve dans les facs des profils sociaux qui sont autres que des hommes des classes supérieures blancs à partir des années 2000-2005. Et du coup, l'arrivée d'un autre profil dans les amphis, ça fait qu'il y a aussi une réflexion pédagogique sur qu'est-ce qu'un amphi. Et du coup, les critiques qu'on pouvait faire contre les amphis en 74, qui sont quand même encore vraies, c'est-à-dire que c'est délivrer un savoir universel, que les gens sont censés gober comme si, comme Paulo Freire, il dit comme s'ils étaient un compte en banque et qu'on leur jette de la valeur dedans. Et ben ça a été réfléchi par les nouvelles vagues d'enseignants-chercheurs. Du coup, ça a été aussi transformé, et j'ai envie de dire, non parce que moi je le fais, en tout cas j'ai envie de dire amélioré, et du coup, à ce moment-là, si on se met à réfléchir avec un peu des intentions de justice sociale et de lutte contre les inégalités, comment gérer un amphi, ben, on peut quand même y arriver, on peut arriver à transformer ces cours magistraux, à faire que des gens, on peut leur apprendre à poser des questions et à s'étonner. Enfin, tout ça, c'est possible. Mais du coup, ça risque de disparaître. Ça semble un peu évident que c'est les cours de 160 personnes en amphi qui vont disparaître. Et moi, ça me semble qu'il y a aussi un intérêt dans le fait de se retrouver en grand groupe dans la société. En fait, on n'a pas beaucoup d'espace dans lesquels on se trouve à 100 ou à 150. Et il y a aussi une force là-dedans. Et les mouvements sociaux dans les universités, les AG, elles se sont faites dans des amphis aussi. Et en fait, quand il y a un amphi qui n'est pas content, c'est difficile de l'ignorer. Parce qu'il y a un pouvoir dans le nombre. On n'a pas le recul pour vraiment dire qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'un des effets de cette crise sanitaire qui me semble vraiment triste, c'est de perdre la possibilité d'avoir cette force du nombre, quoi.
Bah, c'est sûr qu'on travaille à l'université, puis moi j'ai toujours à la fois toujours été très attachée à cette institution et puis très critique aussi sur ce que c'est. Hein. Il y a eu tout un mouvement là ces dernières années. La question, c'était faut-il sauver l'université ? Voilà, parce qu'on en est là. Hein. On en est à se demander avec la massification des du nombre d'étudiants, le fait qu'il y ait de moins en moins de recrutement, la précarisation. Voilà, on se demande. Cette question, elle est légitime hein, à se poser. Hein. Qu'est-ce que c'est l'université aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est une vraie question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Hein, mais... voilà, j'ai quand même toujours ce fait de dire qu'il y a eu des choses possibles, des libertés, des contre-pouvoirs, des façons de s'organiser, la construction du savoir différent dans les universités qui me tient à cœur et donc on aimerait conserver. Voilà, mais tout en ayant un regard critique sur ce que ça a été, ce que ça a produit, ce qui reste à améliorer, à changer. Donc pendant le confinement et le fait que voilà, tout le monde a bricolé comme il pouvait pour mettre en place cette fameuse continuité pédagogique hein, qui a touché aussi dans l'enseignement supérieur, s'est posé la question des examens pour les étudiants qui fonctionnent sous forme de partiel habituellement en fin de semestre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tentatives, hein, parfois réussies, des universités de recourir de plus en plus à des entreprises privées, à des systèmes privés de télésurveillance des étudiants, en fait, depuis chez eux, pour qu'ils puissent réaliser leur examen. Alors, avec des systèmes d'accès aux données web de l'étudiant par un logiciel, qui pouvaient scanner tout leur mouvement et leurs gestes sur leurs ordinateurs. Par exemple, dès qu'ils faisaient un copier-coller ou qu'ils ouvraient une page d'un navigateur, c'était vu. Il y avait aussi un scan de la pièce qui était prévu dans laquelle était l'étudiant. On pouvait suivre le mouvement des yeux de l'étudiant, filmer, etc. Bon, bref, quelque chose qui paraît démesuré, mais qui a été vraiment testé, notamment à l'université à Rennes 1. Voilà. Alors, il faut dire que il y a eu un mouvement important des étudiants contre ce système de télésurveillance des examens, notamment même des étudiants d'école de commerce là, qui sont mobilisés avec des pétitions, etc., pour essayer de limiter au maximum cette télésurveillance, puis l'intrusion dans la vie personnelle de l'étudiant, et aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes de pédagogie, hein, de fliquer autour nos étudiants. Normalement, les partiels sont là aussi pour avoir un temps d'échange sur finalement ça a été quoi les acquisitions pendant l'année, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, etc. Là, on est dans une autre dimension, je trouve. Et ouais, c'est aller loin aussi dans qu'est-ce qui a été qu'est-ce que ça a fait aussi aux professeurs, aux enseignants, puisque en fait faire des examens en ligne, c'est pas nos pratiques, c'est pas nos habitudes, on savait pas comment faire, mais c'est aller jusqu'à la suspension d'un professeur de droit public à l'université de Saclay. Je pense que c'est important d'en parler, mais il avait mis en place un examen en ligne sous forme d'un examen pour un cours de droit qu'il menait, et il a eu, comme on n'est pas formé à l'utilisation de ces outils numériques et qu'on ne le souhaite pas forcément, hein, d'ailleurs, il y a eu un problème de paramétrage de son examen qui fait que apparemment certains étudiants auraient eu la réponse au partiel avant de faire le partiel. Ça s'est su parce qu'il avait échangé des mails avec les techniciens informatiques pour essayer de comprendre comment fonctionnait tout ça. Et donc, la présidente de l'université a décidé de suspendre ce professeur de droit public jusqu'à fin juillet. Là, c'était fin mai, à titre conservatoire. Voilà, donc une réaction vraiment disproportionnée de la présidente de l'université, hein, parce que ça veut dire un retrait de salaire, etc., jusqu'à fin juillet. Et donc, malgré tout, il y a eu une pression syndicale, une pétition qui a eu lieu, qui fait que la suspension a été retirée, mais pose la question quand même de c'est quoi en fait la rupture d'égalité pour les étudiants. On dit que faire des examens comme ça, télésurveiller, ça permettrait une égalité entre les étudiants, mais on se rend bien compte que ça permet surtout une rupture d'égalité incroyable de faire des examens comme ça avec des moyens qui sont pas à la hauteur, les organisations en ligne, la surveillance massive des étudiants, etc., le stress causé.
Et du coup, cette surveillance, elle fonctionne aussi côté prof, parce qu'après, selon comment c'est organisé, mais du coup, les copies sont téléversées sur une application, et après, du côté prof, tu dois te connecter à ton application et mesurer le temps précis que tu as passé à corriger chacune des copies. Du coup, on pourrait supposer que derrière,
tout à fait.
Ça va être probablement utilisé par l'université qui déjà, en plein confinement, avant même d'avoir remercié du fait qu'on s'était totalement réadapté pour faire que le délire continue, a commencé à se demander quels outils allaient être mis en place pour vérifier si les gens télétravaillaient bien de chez eux. Du coup, on peut supposer que ce qui est testé sur les examens pour les étudiants va aussi prendre de l'ampleur.
C'est sûr qu'on a tous bricolé, on était dans une question inédite. Les premières semaines, on a fait comme on a pu, puis les services d'université, les directions de département, les présidents d'université aussi, ils étaient un peu désarmés, hein. Ça c'est clair qu'on leur enlève pas. Le problème, c'est pour la suite. Là, je pense que la rentrée universitaire, elle nous fait tous très peur. Voilà, parce que autant on comprend que les premières semaines, on n'avait pas les logiciels, on n'avait pas les moyens, on ne savait pas comment faire, mais voilà, là ça nous inquiète, c'est surtout pour ce qui va suivre. Pour conclure, on peut dire c'est aussi compliqué de s'organiser et se mobiliser dans ces moments-là, puisque de toute façon, on est, comme d'autres secteurs, dans une incertitude croissante. Là, on sait toujours pas, on n'est toujours pas retourné dans nos laboratoires, dans nos bureaux. On n'a pas pu revoir nos collègues. On s'est eu au téléphone forcément un peu au départ pour savoir qu'est-ce qu'on faisait, parce qu'on était tous forcément hébétés par la situation. Mais là, c'est difficile de s'organiser aussi collectivement par rapport à tout ça, vu que le confinement nous a tous éclatés dans nos lieux, dans nos problématiques à la fois personnelles et professionnelles renforcées. Je sais que les syndicats continuent à se mobiliser et voilà, ils se réunissent notamment. Peut-être on peut dire ça, la coordination nationale des facs et des labos en lutte, qui est l'organisation un peu nationale qui autour des mouvements sociaux dans les universités se réunit en AG de façon numérique là en ligne. Donc ce sera peut-être un des premiers moments là depuis mars où on va pouvoir peut-être refaire rediscuter de façon générale ces questions-là, sachant que comme toujours il faut pouvoir se connecter, il faut pouvoir prendre du temps pour faire ça alors qu'on travaille déjà tous énormément. C'est qui va le faire? Il y a eu des inégalités qui ont été on n'en a pas parlé, mais des inégalités qui existent dans l'enseignement et la recherche importante, mais par exemple là notamment des inégalités de genre pendant le confinement. Donc il y a toujours plus d'hommes qui publient des articles scientifiques que de femmes, mais là la proportion a comme explosé, énormément plus d'hommes qui ont publié et beaucoup moins de femmes qui ont publié, ce qui est pose des questions forcément sur le renforcement des inégalités de genre pendant ces moments-là. Et ce travail de soin aux autres, c'est clair que j'avais pas l'énergie pour publier mon texte alors que c'est, on pourrait dire que c'est ça mon métier, et aussi parce que je prenais le temps aussi d'y réfléchir, hein. On n'avait pas envie de... On a été poussé à se dire, à réagir vite, à devoir écrire, à communiquer, mais en fait quand on est chercheur justement on a cette exigence de prendre le temps pour peser nos analyses. Ceux qui voudraient aller plus loin sur ces questions, suivre un peu l'actualité des universités en lutte ou mobilisées, il y a un blog qui est tenu par des chercheurs en sciences sociales qui s'appelle academia.hypothese.org. Voilà, donc c'est un endroit qui est tenu avec plusieurs auteurs, mais qui permet de recenser l'ensemble des mobilisations, des événements, des analyses, des critiques sur la situation de l'enseignement et de la recherche en France aujourd'hui.
On se retrouve donc sur Micro-Ondes, on est ensemble jusqu'à 14h. Vous écoutez donc cette émission actuellement sur Radio Campus 90.8, mais vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de Radio Campus ou sur le site du Tami, le-tami.info. Et on va tout de suite écouter un petit morceau qui nous a été proposé par Gaëlle, donc une des personnes que vous venez d'entendre. Ce morceau, c'est Habitus du rappeur Rossé, et qui aborde donc ce terme de sociaux que vous connaissez peut-être, quel habitus, dans ses moindres détails, comme vous allez pouvoir l'entendre.
À marcher. cherché en bande et à connaître la fouille. La bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposés à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Disposés à être tutoyés par toute institution. Institution méprise et déplore ton élocution. Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge? Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abribus, seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais t'oublies un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Tu sais que les riches sont pas plus libres que toi, eux aussi sont aliénés par leurs mots, leurs codes, leurs choix. Sauf que leur argot est bien vu, il est même courtisé. On dit du tien qu'il est bad, du leur qu'il est souligné. Leur style et leur mode sont juste plus prisés. En plus tu grandis et l'argot du préau n'est plus le consensus. De poids, de mesure, en fonction de ta voix, ton allure, ton aisance du langage, dans la guerre du langage. Ce monde peut cerner d'où tu viens et j'en ai pas dit plus. Humain, tu restes emprisonné par tes habitus. Le quartier a ses règles, ses lois, son langage, son argot. Tu sais de quoi je parle, surtout quand t'es ado. Rempli de vivacité, tu sors du bahut, du chahut, contaminé par les expressions tordues de la rue. T'as vu, tu ramènes à l'école une manière de parler. Tu te la racontes, la manière de manier la langue est taillée. Tes parents se sont dit, l'école change les nantis. Mais leur enfant grandit, veut parler comme un bandit. C'est une règle sociale, on s'adapte à notre monde. L'accent, le verbe, la phrase te reflète, te ressemble. T'as un arrière-goût du quartier, tu restes son ombre, c'est chaud. Les mots qui te servent à parler reflètent l'écho des autres. T'as pas encore conscience que le langage est ton passeport. Plus tard faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort. Ton horizon d'enfant construit ta personnalité. Tes manières, ton argot te façonne comme personne n'a idée. Ça jouera sur le mariage, sur le choix du job, sur ton décor, sur le nom des gosses, sur le choix de l'école. De la musique que t'écoutes, de celle que tu comprends pas. Des malheureux que tu écoutes et de ceux que tu n'entends pas. Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours, l'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'écroule, tu auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille. D'autres sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante qui s'habille de l'accent des capitales scintillantes. En vrai, ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés, mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais j'oublie un détail, genre d'accent avec lequel je finis mes phrases. Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus. Humain, je reste emprisonné par mes habitus.
Depuis jeudi dernier, le 2 juillet, les jeunes majeurs qui étaient avant protégés par le département et qui sont depuis un an à la rue et non protégés par le département, alors même qu'ils continuent leurs apprentissages ou leur scolarité, manifestent devant le rectorat pour demander notamment au rectorat l'ouverture d'un internat pendant les vacances d'été, puisque hébergés dans un internat pour certains, ils vont du coup se retrouver à la rue cet été. Nous avons été sur le campement prendre la parole des jeunes majeurs qui puissent nous raconter leur lutte. Mais avant, on écoute une chanson produite par une des personnes jeunes majeures sur le campement qui va nous la présenter.
J'ai fait un morceau ici parce que là, depuis que je suis venu à Grenoble, en France, j'ai eu des très belles expériences et la vie m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et j'ai réussi à chanter un peu sur l'amour et je vais vous présenter ce morceau qui s'appelle « Pense qu'à toi » et je suis sûr que ça sera passé à votre radio et vous allez kiffer. C'est parce que c'est un truc de ouf. Et le nom de ma page YouTube, c'est Samka2 officiel. Sur Facebook, c'est Samka2 officiel. Et Instagram aussi, pareil, Samka2 officiel.
Mon La mer c'est ma source de vie. Il n'y a que toi et moi. Fais-moi danser, fais-moi zouker. Fais-moi signer, bébé. Ne t'en fais pas, bébé. Viens, va danser, bébé. Dis-moi que tu m'aimes, c'est pour toute la vie. Je serai ton gars, oh. Avec tous ces rondes, tu veux te laisser partir pour que je tourne en rond. Non, non, baby. Ne t'en va pas, oh baby. Baby, Icalan koné bifè. Oh my baby, Icalan koné bifè. Oh my baby, je ne fais que penser à toi. Oh my baby, je ne fais que penser à toi. Oh my baby, je ne fais que penser à toi. Oh my baby, je ne fais que penser à toi. Come inside, baby, I love your style. I want you by my side. I hope you understand. Tell me where can I take you go? She tell me through my goal. You never pass out of your me. Love you like a Ramadan. Me and you is forever. Fuck for like a Jackie Jack. You could pass a kiss deep. For you, I'm hustling. I'm a bum for you, yeah. That is what I choose, yeah. Gotta be, oh yeah. Hey, over you, are a maru. Over you, are a jingo. Love you like a Miamingo. Miamingo. Yeah. Baby, Icalan koné bifè. Oh my baby, Icalan koné bifè. Oh my baby, je ne fais que penser qu'à toi. Oh my baby, je ne fais que penser qu'à toi. Oh my baby, je ne fais que penser qu'à toi. Oh my baby, je ne fais que penser qu'à toi. Baba Yaga, il n'est pas que pense qu'à toi. Comme c'est Choco, il n'est pas que pense qu'à toi. Ma petite Amina, elle n'est pas que pense qu'à toi. L'Ose de Paris, il n'est pas que pense qu'à toi. Bene de Panam, lui n'est pas que pense qu'à toi.
Nous sommes devant les Torah parce que on est au lycée et les vacances sont déjà arrivées. Tout le monde sera en vacances et nous on sera à la rue. Et c'est pourquoi nous sommes devant les Torah pour qu'ils nous trouvent, même s'ils nous ont trouvé ouvert un internat pour nous avec une cuisine et pour qu'on puisse faire notre vacances là-bas jusqu'à la rentrée scolaire. Et c'est ce qu'on cherche et on est venu là pour... Vu qu'on envoie des lettres et il n'y a pas de réponse, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour rester jusqu'à où on aura des nouvelles, où on aura des solutions. Normalement, on devait avoir les appartements, mais vu que le département et la préfecture nous ont donné des trucs qui vraiment bousillent notre vie, avec un QTF et sans contrat jeune majeur, on ne peut rien faire. Et on a tout fait pour essayer d'aller à l'école, pour essayer d'anticiper tout ça. Mais viens, ça ne marche pas toujours. On fréquente, on part à l'école et certains de nous ont eu les diplômes. Toujours pas d'autorisation de travail, pas de contrat jeune majeur. Ils sont toujours là à la rue avec nous. Et dans les jours à venir, il y a certains d'autres aussi qui sont dans la rue comme nous aussi. Qui ne souhaitent pas, mais déjà la date est fixée pour le 11 avril, je ne sais pas, le 11 juin, un truc comme ça. Ils vont sortir comme nous. Ils sont à la rue.
Et justement, ça fait combien de temps pour vous que ça dure, cette situation?
Ça dure un an, ouais. Aujourd'hui, on est plus que 50. On est plus que 50 jeunes et accompagnés des soutiens et puis voilà. On est plus qu'ils pensent. On est quand arrivé, il y a certains parmi nous qui la date n'ont pas envoyé à l'école parce qu'ils étaient dans une procédure, on dit une procédure, un non-procédure. et qu'ils sont, il y a deux qui sont passés par la police, prendre les empreintes et tout. Donc ça a été très long pour eux avant d'être confirmés. Le temps d'être confirmés, ils sont déjà majeurs. Et
confirmer, ça veut dire...
Confirmer, c'est-à-dire, il faut que au soit le département ou la police te dit, voilà, vraiment, c'est un mineur, on doit le prendre. Et c'est comme ça, on te prend, on te met à l'école. Et tant qu'on ne dit pas ça, tu ne vas jamais aller à l'école. Et tu as tes 18 ans, tu commences à aller à l'école. Même si tu as eu un contrat d'apprentissage, le patron, il a confiance à toi, il te prend. Et au cours de route, ton contrat, il s'arrête et tout un coup, on t'arrache le contrat. On a fait pas mal d'actions. On a fait les marches et on a pris une église Saint-Paul. On est à l'église Saint-Paul, là où on a campé pendant quelques mois jusqu'à le confinement arrive. Et toujours on est là pour montrer que la lutte qu'on a commencée, ça n'a rien donné encore. Ils nous ont oubliés, pourtant on est toujours là devant les fenêtres et ils ne nous voient pas, ils font semblant. Pourtant ils nous voient très bien. Ils voient qu'il y a les jeunes là qui souffrent. Et voilà, quoi, on est là aujourd'hui pour leur montrer encore qu'on est toujours là. C'est ça notre lutte, pour qu'ils nous trouvent une solution. On espère parce qu'on n'a rien fait de méchant. On n'a rien fait de méchant. On n'a pas fait des crimes où on mérite ça. On est là pour juste pour demander quelque chose d'humain et pas d'inhumain. Bah, tout ce que moi je pourrais dire, c'est dire à toutes les Grenoblois et à toutes les Grenobloises que nous attendons les soutiens, nous attendons d'eux vraiment ce qu'ils sont. On sait que c'est des gens bien, même s'il y a peu de gens qui ne sont pas bien parmi eux, on sait que la majorité sont bien et on les voit tous les jours. On les voit à travers ceux qui nous voient à la rue, ceux qui nous soutiennent, on les voit à travers eux. Et tout ce qu'on demande, c'est de nous apporter le soutien, de faire le plus bon possible que ce département et la préfecture et toutes d'autres structures qui sont à la base de toutes nos causes, qui nous viennent en aide pour débloquer ces problèmes-là. Parce que nous seuls, on ne peut pas y aller, on ne peut rien faire. Sans eux, on ne peut rien. Et on attend d'eux vraiment ce qu'ils sont. Des gens bien qu'ils sont, on attend d'eux pour nous prouver ça.
Okay.
Parce que les formations déjà qu'on fait, c'est pour apporter quelque chose. Avec ce peu de savoir qu'on a, et je crois qu'on peut, partager le savoir et améliorer ce qu'on sait. C'est ça que je peux dire. Et puis je remercie tous ceux qui vont écouter ce live là et puis voilà quoi, peace and love.
J'ai choisi la chanson d'Alpha Blondie parce que ça nous parle de l'humanité et ce que nous vivons aujourd'hui, moi pour moi c'est inhumanité, c'est pas juste. Et mes paroles que j'ai dit, et je veux que le morceau parle en bas pour prouver vraiment que l'humanité est plus importante que tout ce qui se sort, parce que tout ce que nous vivons est que vanité et l'humanité avant tout. C'est très important.
Ce mystère est de la vie.
Le mystère a vu le jour, la nuit.
C'est bientôt la fin de Micro-Ondes sur Radio Campus Grenoble. On se quitte avec l'agenda de cette semaine qui commence avec un événement qui aura lieu cet après-midi, samedi 4 juillet à 16h. Le Front uni des immigrations et des quartiers populaires de Grenoble appelle à marcher pour la vérité, la justice et la dignité pour toutes les victimes de violences policières et de déni de justice. Ce qu'on peut lire dans le tract d'appel du FIQP. Nous marcherons derrière les familles présentes à Grenoble ce 4 juillet, les familles de Mehdi, de Babacar, de Bilal, d'Ismaël, d'Adama, de Jouaï et de Wissam notamment. Nous marcherons pour exprimer notre soutien à toutes les familles victimes de violences policières et de déni de justice. Nous marcherons pour la vérité et la justice, pour tous et pour toutes. Nous marcherons pour montrer notre détermination à soutenir les combats des familles. Nous marcherons pour la dignité et l'égalité réelle pour les quartiers populaires, les personnes exilées, les descendantes des immigrations et toutes les personnes qui subissent le racisme d'État. Nous marcherons pour la vie de nos frères et sœurs, de nos fils, de nos filles, de nos parents et de nos proches. Nous vous appelons à venir marcher contre les violences policières, le déni de justice et le racisme d'État. Nous vous appelons à venir marcher pour donner la force aux familles. Nous vous appelons à venir marcher pour la justice, car sans justice, il ne peut y avoir de paix. Alors c'est un départ à 16h cet après-midi, arrêt de tram La Bruyère, arrivée à 18h place de Verdun, avec des stands et un goûter à l'arrivée. Samedi 11 juillet, 14h, place Notre-Dame, c'est un rassemblement contre les expulsions et les remises à la rue. Locataires mal logés, sans logement, unis pour ne plus subir. On va vous lire le tract. Fin de la trêve des expulsions, retour des remises à la rue. Le 10 juillet inclus, la trêve hivernale s'achève, décalée par la crise sanitaire. Et même si la crise sociale s'étend de plus en plus, le gouvernement s'en moque. Il faut expulser pour sauver les profits des spéculateurs et les finances des bailleurs, punir les locataires qui n'ont pu honorer leur loyer ou leurs dettes. Croyez-vous qu'on allait prendre le risque d'attendre quelques mois de plus ? Il faut aussi expulser les personnes hébergées dans les foyers pourris, les personnes qui se sont mises à l'abri par leurs propres moyens, les personnes qui campent dans des abris de fortune. Pour bien leur rappeler que pour avoir le droit d'être logé, il faut payer. Et sans argent, pas de logement. Le 11 juillet, donc, à 14h, rassemblons-nous place Notre-Dame pour dénoncer cette situation, rappeler au pouvoir public et particulièrement à la préfecture de l'Isère qu'il y a des dizaines de milliers de logements vides dans l'agglomération. Nous organisons cette année des piquets anti-expulsion pour se rassembler devant les logements des personnes qui risquent une expulsion et empêcher ce drame. Si les propriétaires ne veulent rien entendre, nous leur opposerons notre solidarité. Si vous souhaitez participer à ces piquets anti-expulsion dans votre quartier ou votre ville, c'est simple. Envoyez-nous vos coordonnées, prénom, nom, numéro de téléphone plus mail à droitaulogement@grésy.org et nous vous recontacterons. Mais le mieux, c'est de venir le 11 juillet sur place afin de nous les donner directement. Rejoignez l'événement Facebook le 11 juillet contre les expulsions pour suivre les informations. Un toit, c'est un droit. Non aux expulsions, non au logement cher, augmentation des APL, application de la loi Dalo, retour de l'aide à la pierre. Produisons rapidement et massivement des HLM bon marché. Le 11 juillet, 14h, place Notre-Dame. Alors pour les soutenir ou pour contacter le DAL, vous pouvez aussi les joindre au 06 41 30 51 18 ou droitaulogement@grésy.org, tout en minuscules, tout en attaché, et le Facebook droitaulogement 38. On y retrouvera sans doute le collectif Jeunes Majeurs qu'on a entendu tout à l'heure et qui campe actuellement au rectorat où ils organisent la lutte pour obtenir la mise à disposition d'un internat pour l'été, des garanties de places financées dans les internats l'année prochaine. Ils continuent de demander à la préfecture de l'Isère et au conseil départemental leur régularisation, le droit de travailler, leur relogement, la signature systématique d'un contrat jeune majeur, la levée des OQTF et l'arrêt des remises à la rue. Ils organisent des assemblées tous les jours sur place, donc devant le rectorat, arrêt tram, hôtel de ville, à 17h30 et vous pouvez passer comme bon vous semble pour les soutenir et vous inscrire sur le tableau de présence. Et puis on reste vigilante aussi avec la lutte des hôpitaux et du collectif Inter-Hôpitaux qui organise depuis des mois des mobilisations tous les mardis. Il y en aura peut-être cet été, il y aura peut-être des actions, restez vigilante, n'hésitez pas à aller sur les sites des syndicats Sud, CGT. On a sans doute oublié des événements et on en est désolé. N'hésitez pas à nous envoyer vos événements si vous avez des choses à passer, à diffuser. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.
Et voilà, c'était Micro-Ondes, ça s'achève. Vous nous retrouverez la semaine prochaine, toujours de 13h à 14h sur Radio Campus 90.8. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le-tami.info. Et sur le site de Radio Campus Grenoble. Bonne semaine et à la semaine prochaine.